Michel Bonnet, corde 2022. Bonjour à tout le monde. Nous continuons notre marche vers la rencontre avec le pays cordé, corde et toute cette époque médiévale. Je répète peut-être souvent la même chose, mais on ne peut pas faire autrement. En plus, je crois qu'il y a des choses qu'il faut répéter assez souvent, sinon on n'en tient pas compte parce que l'habitude des historiens, c'est de regarder les choses d'un point de vue national et assez peu de les regarder du point de vue local, quoi. Et donc, essayons de voir un peu, de nous approcher un peu de la réalité telle qu'elle a été vécue, telle qu'elle a influencé les gens qui ont construit Corde, Raymond VII, et pas uniquement lui, évidemment, quoi. Alors, je voudrais insister aujourd'hui un peu sur l'environnement socio-culturel qui a présidé à la fondation de Corde. On a parlé des troubadours, mais ça c'est à l'intérieur d'un ensemble. Il faut replacer tout ce travail des troubadours sur l'ensemble socio-culturel de la région. Et pour ça, il faut se rendre compte, parce que c'est très différent d'aujourd'hui, complètement différent d'aujourd'hui, ils se rendent compte que à partir de, disons, un siècle après la disparition de l'Empire de Charlemagne, vous savez que les enfants de Charlemagne se sont disputés entre eux, enfin, etc., il y a eu des guerres, etc., et toute cette partie occidentale de l'Europe s'est trouvée divisée dans un certain nombre de gros ensembles. Il y avait l'Angleterre d'un côté, l'Allemagne de l'autre, l'Italie avec Rome en bas, l'Aragon, la Castille au sud, le comté de Toulouse, au milieu de ça, l'île de France avec celui qui serait plus tard le roi de France, qui essayait de pas se laisser coincer par les autres. Et si bien qu'il y a eu, ça a été une effervescence au 11e, 12e siècle, surtout 11e siècle, un gros brouhaha, parce que les structures qui avaient été posées par Charlemagne se sont diluées ou même ont disparu. Et il a fallu les recomposer, ça a été très difficile, du fait que ce sont des familles, des dynasties, mais enfin des grandes familles qui ont pris le pouvoir et qui se sont arrogées par la force, par l'épée, par la violence, qui se sont arrogées le pouvoir. Si bien qu'on s'est retrouvé à tous les échelons, parlons de l'Occitanie, mais c'était la même chose pour les autres pays d'Europe. On s'est retrouvé avec des communautés, enfin disons des populations qui étaient divisées en petites communautés, en districts ou en diocèses, en départements, on peut les appeler comme on veut, parce qu'il y avait 36 noms à la fois selon qu'on était en Occitanie, en Angleterre, en France ou ailleurs, vous voyez. Mais il y avait des familles qui avaient pris le pouvoir politique, qui proposait comme solution à toutes les difficultés de la vie la force. Et en particulier pour protéger les agriculteurs des soldats qui traînaient à droite à gauche, ou des brigands, ou des disputes qui pouvaient y avoir entre les agriculteurs. Donc ils étaient juges, et qui était reconnu comme juge, et qui disait, bon, eh bien, c'est un tel qui a raison, c'est un tel qui a tort, point fin. Et eux, ces hommes forts, ce qu'on peut appeler seigneurs, pour aller très rapidement, parce qu'il y avait 36 sortes de seigneurs, sur un petit coin les cabanes, enfin pas les cabanes, Vendrac, les cabanes n'existaient pas encore tout à fait complètement, quoi. Mais il y avait facilement 5 ou 6 seigneurs, dans un même château d'ailleurs. Donc c'était entre eux, entre les seigneurs, entre les familles de ces seigneurs-là, c'était une lutte pour avoir toujours plus de richesses, toujours plus de force. Comment on le faisait ? C'était le pillage. C'est tout. Les seigneurs partaient à trois ou quatre avec trois ou quatre guerriers, quelques coups d'épée, on tombait sur une maison, une cabane de braves agriculteurs, on lui volait sa vache ou ses moutons, ou bien on montait à l'assaut d'une maison forte un peu plus loin. Voilà, donc il y avait tout ce brouhaha qui permettait à des familles de s'enrichir petit à petit. Tout ça basé sur la violence. Et évidemment, les braves gens, les braves agriculteurs qui étaient dispersés, les villages existaient assez peu, il commençait à y avoir des gens qui se regroupaient ou qui étaient regroupés par les seigneurs autour du château pour se protéger le plus rapidement possible en entrant dans les murs, les remparts du château ou autour les fossés ou les palissades qui protégeaient le château. Et donc, on avait petit à petit ces sortes de hameaux, de petits villages qui s'installaient. C'était ça l'ossature. Ici, on avait Vendrac, on avait Lexos, on avait Camp, etc. Avant de continuer, écoutons 2 minutes de musique.
CFM
de Cahors à Albi.
De Cahors à Albi.
L'esprit rock.
I wanna live before I die, so don't say I have to cry. On one more freezing floor, I ask you to open the door and see how things could have gone. The reason that it took so long before you could figure out that for so long I was about to break, and there were no arms to keep me from harming me. And now I'm searching back to see how I never tried to ask for some sympathy. 'Cause I know nobody wants to ride with me too far, 'cause I might trip away, but in your arms I'd rather stay. You might just turn into something I like. You might. Something I can't live without. My foot is in your hand. I want you to understand how I could be confused right after being used. But still, you're here in spite when I close my eyes to dream at night. I gotta keep my pants on. I gotta check my pulse before I've gone too far away to hurt. So I think I'll stay around.
Michel Bonnet, corps de 2022. Donc, on avait un pouvoir au XIIe siècle, un pouvoir qui s'était mis en place, un pouvoir bâti sur la force. Et en face de ce pouvoir-là, il y en avait un second qui continuait d'exister, parce qu'il avait été créé par Charlemagne et qui restait encore vivant, c'était le pouvoir religieux, qui, lui, tirait sa force de la peur de la mort, la peur d'être condamné à la fin de l'existence à errer on ne sait pas où, disons, et cette peur donc qui était finalement la peur du jugement de Dieu, les gens d'église, disons, s'en servaient pour dire aux gens, bon, eh bien, si vous obéissez, si vous faites ce qu'on vous dit, si vous payez, bien sûr, on va faire des prières pour vous, on vous enterrera autour d'une église et vous serez protégés, peut-être des fois à côté d'un saint, et vous serez sûr d'aller au ciel. Et on jouait là-dessus. Le problème qui s'est posé à ce moment-là, au XIe siècle, à partir de la fin du XIe siècle, c'est que les familles de seigneurs qui étaient riches, notables, etc., et qui avaient des garçons, plusieurs garçons, ça peut arriver bien sûr, n'est-ce pas ? Et les cadets, eux, ne pouvaient pas être seigneurs du coin. Il leur fallait des terres, il leur fallait du pouvoir, etc. Et ils ont pris l'habitude de les mettre dans l'église, de les mettre à la tête d'une petite paroisse, ou de les mettre adjoints à un évêque, etc. Et progressivement, à l'espace de quelques décennies, ces familles, qui étaient finalement liées avec les familles qui avaient le pouvoir politique, ont pris en main le pouvoir religieux lui aussi. Et l'ont transformé, parce que ce qui les intéressait, c'était pas la religion, c'était l'argent, c'était bien évident. Un peu tout le monde est comme ça, mais enfin, disons que ils utilisaient le plus possible la religion pour faire de l'argent. Faut savoir que les curés, la plupart du temps, étaient mariés ou vivaient avec une femme, avaient des enfants, et c'était évidemment officiellement, non, c'était pas permis, mais en fait, 90% des curés vivaient comme ça, et c'était petit à petit, on voyait très peu de différence entre, d'un côté, le seigneur local, le pouvoir politique, et de l'autre, le pouvoir religieux, puisque des deux côtés, bon, on essaie d'extorquer aux pauvres agriculteurs de la région tout ce qu'on pouvait sous la forme de dîmes, sous la forme de paiements pour un enterrement, pour un mariage, pour un baptême, tous ces actes religieux que tout le monde croyait, se croyait obligé de suivre, bien sûr, parce que on devait faire face à la présence de Dieu, et c'est pour ça que Dieu était très très présent, bien différent d'aujourd'hui à ce point de vue-là. Et là-dedans, évidemment, les gens n'étaient pas contents, on s'en doute, parce que d'abord, ça coûtait cher, ça appauvrissait, et puis en même temps, on se rendait bien compte que le pouvoir religieux racontait des histoires. Il disait, bon, on va faire des prières et vous irez au ciel. Les gens disaient, oui, mais il ferait bien d'être un peu plus sérieux. Vous voyez, il y avait une demande de transformation. On n'était pas du tout contents. Et puis, il y avait parmi les évêques, parmi les prêtres, des gens sérieux qui voulaient purifier, en quelque sorte, l'ensemble du milieu. De même que parmi les seigneurs, il y avait des seigneurs qui voulaient être sérieux, justes, qui ne voulaient pas de la guerre n'importe comment. Et donc l'Église avait lancé un grand mouvement de réforme, un grand mouvement de changement, et ça a fait beaucoup de brouhaha, parce que forcément, ça résistait. Lorsqu'on arrivait dans un diocèse, lorsque le pape envoyait un légat, le pape, il était comme les autres, il était aussi pourri que les autres, excusez-moi l'expression, hein, mais quand on voit comment ça se passait en Italie, ils cherchaient le pouvoir, les bagarres entre Rome et Milan, c'était pas des batailles très spirituelles. En plus, il avait de bonnes armées bien équipées, avec des églises qui étaient fortifiées, des mercenaires, c'était interdit, les seigneurs étaient excommuniés quand ils prenaient des routiers ou des mercenaires, mais les évêques utilisaient les routiers de la même façon que les seigneurs. Et donc, l'église dans son ensemble a essayé de lancer un mouvement de réforme. Et donc de dire, bon, eh bien, les biens... Le mouvement de réforme, c'était pas d'abord d'être plus spirituel. Ça, officiellement, bien sûr, on le dit. Mais le principal, c'était que l'Église, elle voulait récupérer tous les biens qui lui appartenaient en propre. C'est-à-dire tous les biens qui avaient été donnés à l'Église, puisque au moment de la mort, le meilleur moyen pour se faire pardonner les nombreux péchés qu'on avait faits pendant sa vie, on donnait une partie de ses terres, ou même toutes ses terres, ou une partie de ses richesses, on les donnait à l'Église. Et donc ça appartenait à l'Église en propre, et en échange, bon, l'Église promettait des prières et que le bon Dieu serait gentil avec celui qui faisait ce don-là, vous voyez. Et l'Église donc a essayé. À ce moment-là, il y a eu plusieurs conciles, il y a eu des réunions, donc on appelait ça des synodes, ici à droite, à gauche, à Toulouse, à Montpellier, enfin un peu partout en Europe d'ailleurs, pour obliger les familles qui avaient pris, avaient considéré comme leurs biens propres les biens de l'Église, de les rendre à l'Église. Il y a eu donc un mouvement de réforme et qui a été d'un côté mené par des directives sortant des réunions d'évêques, des conciles, etc., et qui était attendu un peu aussi par une partie de la population. Mais on se trouve à ce moment-là avec une situation économique en plein changement. Et nous allons aborder cette question après de nouveau deux ou trois notes de musique.
On a toujours besoin d'un peu de rock dans sa radio, non ? CFM ?
CFM.
L'esprit rock.
L'esprit rock. Yeah!
Michel Bonnet, Corde 2022. Je disais donc que nous étions à une époque où il y avait beaucoup de brouhaha au point de vue vie en société, à cause de ces luttes entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, où à l'intérieur du pouvoir religieux, finalement, c'était les mêmes familles qui possédaient ou qui essayaient de posséder toutes les richesses de l'Église. Et donc l'Église voulait reprendre ça en main. Elle le voulait d'autant plus qu'on est dans une époque, la fin du début du XIIe siècle, tout au long du XIIe siècle, une époque où il y a eu une amélioration du climat d'un côté, de l'autre, donc quasi automatiquement, une amélioration des légumes, des fruits, des céréales, qui étaient dans la production agricole. Et il y avait aussi toute une amélioration des techniques de travail, des techniques agricoles, et donc davantage de richesses, donc davantage de population. Les gens mangeaient mieux, donc il y avait davantage d'enfants. Et on a eu une montée de la population qui est allée en grandissant jusqu'à la fin même du XIIIe siècle. Après le XIVe, la peste va se charger de changer ça. Mais au XIIe et au XIIIe siècle, on est dans un virage sur l'ensemble de l'Europe vers un développement économique formidable. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est que ceux qui ont de l'argent, ils en ont toujours plus, et ceux qui en ont pas beaucoup, ils essaient d'en avoir. Mais évidemment, les disputes, les dissensions sociales, les disparités à l'intérieur de la société deviennent de plus en plus dures et donc difficiles à supporter. Et lorsque, évidemment, les curés ou les évêques s'aperçoivent qu'on leur demande de rendre les églises ou les champs, les terrains qu'ils avaient, lorsque vous avez une vallée entière qui appartient à quelqu'un qui croit être le propriétaire de ça parce qu'il est curé, mais qu'en fait c'est à l'église qu'on l'a donné et non pas à monsieur XYZ, vous voyez qu'il va s'accrocher, il va essayer de se défendre. Alors on arrive à fortifier des églises pour les transformer en châteaux forts, on arrive à avoir des curés ou des évêques qui ont des milices avec eux, des soldats qui n'hésitent pas à utiliser la force alors que normalement ils devraient pas. Et donc, ça crée des tensions, un brouhaha, qui gêne l'évolution normale de la société, mais qui pousse les gens à réfléchir. Et beaucoup de gens dans la population, bien sûr, il y a des gens qui sont éreintés par le travail, des braves agriculteurs qui du matin au soir triment, ils vont pas faire de la théologie, de la philosophie ou autre chose, hein. Ils vont boire un verre s'ils peuvent pour se consoler le soir, mais ils vont dormir pour pouvoir mieux travailler le lendemain, quoi. Mais il y a quand même des gens qui se disent, bon, faut quand même être sérieux, et on voit apparaître, et ça c'est un phénomène étonnant que l'on connaît très peu, parce que l'Église n'a pas beaucoup voulu en parler, et vous savez que tous les documents qu'on a de cette époque, c'est des documents qui sont toujours en latin, et faits par des gens d'Église. Et donc c'est toujours un peu manipulé, même si c'est pas manipulé volontairement, mais inconsciemment, les mots qu'on emploie, etc. C'est pas du tout. Tenez un exemple, par exemple, dont on parlera plus tard de nouveau et qui a été important pour le Midi, c'est que dans les textes latins ou même dans les textes occitans que l'on trouve à cette époque-là, lorsqu'on parle des prostituées, lorsqu'on parle des mercenaires, lorsqu'on parle des routiers, lorsqu'on parle des lépreux, très souvent on emploie le même mot. On dit ce sont des hérétiques. Bon, nous, quand on entend le mot hérétique aujourd'hui, et comme beaucoup de gens de l'époque, on pense de suite un peu à la religion, c'est des gens qui sont pas d'accord avec la religion, etc. Mais ça veut pas du tout dire qu'ils ont une foi différente, vous voyez. C'est pas parce que des gens ont été classés hérétiques qu'ils étaient automatiquement non chrétiens. Enfin, qu'ils étaient contre la religion chrétienne. Donc, cette façon de parler qu'on trouve dans les documents d'Église, il faut toujours y faire attention, c'est très difficile. Et donc, je disais qu'il y a un mouvement qui se met en place, on voit des hommes peut-être aussi quelques femmes, mais pas beaucoup. Mais bon, c'est l'époque aussi, il faut dire, le pouvoir est beaucoup plus masculin et machiste encore qu'aujourd'hui. Et donc, on voit des hommes, des individus qui disent « Eh bien, moi, je vais vivre l'Évangile, je vais vivre comme les apôtres au temps de Jésus-Christ, c'est-à-dire avec rien, avec la pauvreté au maximum. » Et on voit des hommes qui avaient fait des études, qui avaient réfléchi, qui lisaient, qui pouvaient lire certains passages de la Bible, qui possédaient parfois les Actes des Apôtres ou l'Évangile de Saint-Jean, c'était les deux textes les plus connus. Et on voit des hommes qui vivent dans la pauvreté maximale. Par exemple, ils s'habillent uniquement avec une peau de chèvre ou une peau de mouton, même sans sous-vêtements, sans caleçon, sans rien, pieds nus. Vous voyez, ils ne vivent comme ça, vivre la pauvreté au maximum pour ne dépendre de personne, ne dépendre de rien. Ils mangent que les herbes qu'ils trouvent dans la nature, par-ci, par-là, quelques fruits, des responchos, on dirait ici, vous voyez, les orties au bord du chemin, et puis ce qu'on leur donne. Voilà. Et ces hommes-là, ils se sentent tout à fait libres. Parce qu'ils ne dépendent de personne, et donc ils annoncent, ils critiquent les curés, ils critiquent l'Église sans vergogne et sans problème. Et cela va changer beaucoup parce que ce sont des gens qui n'ont pas de logement et donc qui sont des vagabonds, qui sont des voyageurs. Ils vont aller de l'une à l'autre, d'un village à un autre, d'un château à un autre, d'une forêt à une autre, et ainsi de suite. Nous allons y revenir.
CFM.
We'll be right back.
Michel Bonnet, Cordes 2022. Je parlais donc de ces individus qu'on pourrait appeler des ermites, pour employer un mot, moderne. Donc, des individus qui jouaient le jeu à fond de ce qui croyait être la vie des apôtres, comme autrefois les ermites dans le désert, où on a entendu parler de saint Antoine et de son cochon dans le désert, des choses comme ça. Et leur idéal, c'était ça, être totalement pauvre pour être totalement libre. Et il faut voir les textes qu'on peut retrouver de leurs sermons, de leurs prédications, les allusions qu'ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas tendres, évidemment, vis-à-vis des évêques, vis-à-vis des prêtres. Ils voulaient revenir à la pureté de l'Évangile. Et forcément, il y avait des gens autour qui trouvaient ça sympa. Et quand le gars leur disait « Pourquoi il vous paye au curé pour les prières alors qu'il n'y a pas de raison ? Il est encore plus riche que vous, c'est un voleur. Et puis regardez comment il vit avec ses femmes et ses enfants. » Enfin, tout cela, quoi. Et donc, il y avait des gens qui trouvaient ce type d'idéal beaucoup plus proche de ce qu'ils rêvaient vis-à-vis de l'Église. Et le slogan est venu petit à petit, l'ambiance est venue au cours du XIIe siècle, de dire « on vit comme au temps des apôtres ». Le mot « apôtre », tout d'un coup, l'Église du temps des apôtres, et les actes des apôtres étaient les livres dans la Bible qui étaient le plus connu, le plus lu, vous voyez. Et donc, automatiquement, il y avait des gars qui décidaient, des hommes, des femmes, qui décidaient de quitter l'endroit où ils étaient, d'abandonner le trois bouts de jardin qu'ils avaient ou trois bouts de champ qu'ils avaient. Et une cabane en bois, ça leur fait pas de mal de l'abandonner, on en reconstruit une autre à côté. Et ils se mettaient autour de ces ermites et formaient un petit groupe. Ils vivaient la plupart du temps dans les bois, parce que c'était là le plus facile. On est un peu à l'abri, il y a davantage à trouver de nourriture et de protection dans les bois qu'ailleurs. Beaucoup, dans les bois, il y avait beaucoup de ces petites communautés, de 5, 6, 7, 8, 10, quelquefois un peu plus, mais pas beaucoup, et qui se mettent à voyager, à aller de ci, de là. Mais il y en avait qui... On a par exemple d'Arbrissel qui partait de Poitiers à Toulouse. Oui, c'est pas 5 ou 6 kilomètres de Vendrac ou de Cordes jusqu'à Albi, vous voyez, c'est pas du tout ça, quoi. Donc, comme ça, comme ça, il y a un certain nombre, Saint-Bernard a été canonisé, à un moment donné, il a fait ça, d'autres, ils ont lancé comme ça des on pourrait dire des nouveaux monastères, en quelque sorte, bien que le mot monastère n'est pas du tout valable pour ces groupes-là. Et certains de ces hommes ont créé des communautés extrêmement très importantes, des dizaines et des dizaines. Si bien que l'Église, le pape en tête, a été à la fois pour les canaliser et puis pour s'en servir pour ses projets de réforme, leur a donné des mandats, on dirait de... Tu vas aller prêcher à tel endroit, ou tu vas aller prêcher dans le sud de la France, ou tu vas aller prêcher en Lorraine ou en Normandie pour rénover l'Église. Ils ont donné du poids à ces ermites. Et vous en avez comme ça qui ont eu une très grosse importance parce qu'ils ont fondé, finalement, de nombreuses communautés qui, petit à petit, se sont retrouvées liées entre elles par à la fois la spiritualité, ou la façon de faire et de vivre de cet ermite, et puis qui, entre elles, ont eu des relations et ont finalement fait des ordres. Vous avez les prémontrés, vous avez les Bernard avec les cisterciens, et Arbrissel, d'Arbrissel a été un homme particulièrement important parce qu'il a fondé ce qui a été au XIIe siècle, le plus gros, avant que Cluny devienne le numéro un, le plus grand monastère d'Occitan, sans doute, en tout cas de la région qui est aujourd'hui la France, à Fontevraud. Il a lancé Fontevraud, qui était quelque chose de formidable, et où sa révolution était énorme, parce qu'il avait mis des hommes et des femmes, il avait mis, au départ, comme responsable de l'ensemble des couvents d'hommes et de femmes, une femme, pour bien montrer qu'il fallait changer, les bouleversements qu'il fallait faire. Ça en veut dire, ça dit beaucoup, parce que l'Église, elle, les femmes, elles ne pouvaient pas les voir, c'était ce qu'il y avait de plus proche de Satan, le sexe, c'était affreux, il fallait faire attention, etc. Et d'Arbrissel nous intéresse, parce que Fontevraud, il a fait ça avec l'appui d'Aliénor d'Aquitaine, Aliénor d'Aquitaine qui était la maman de Jeanne, donc la grand-mère de Raymond VII, vous voyez, donc très important. Raymond VII sera enterré, Jeanne sera enterrée à Fontevraud, Raymond VII sera enterré à Fontevraud, Jeanne a été éduquée à la communauté de Fontevraud quand elle était toute petite, jusqu'à son mariage, donc important. Et il a fait une chose, c'est qu'il est venu ici à Toulouse, et il a créé, dans la région toulousaine, il est venu créer un couvent, une succursale de Fontevraud, qui est à l'Espinasse, on s'en souvient encore, on a des chartes, etc. Et donc il y a des liens comme ça, qu'on ne connaît pas, dont on parle assez peu, mais qui ont eu une assez grosse influence sur la vie du comte de Toulouse et ses décisions, sa façon de vivre.
Se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte, j'irai bien danser avec les feuilles du peuplier. La lune pâle traîne encore un peu. Regarde-la et ferme les yeux. Oh, mon amour, la valeur pour s'aimer. L'aurore tend fort, fais couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte, triomphe.
Michel Bonnet, corps de 2022. Donc nous disions que des ermites petit à petit itinérants, prédicateurs itinérants, basés sur la pauvreté, au moins au départ, ont essayé de rénover l'Église en accord avec le pape. Et tout ça, ça a créé du mouvement, du brouhaha, exactement comme nous aujourd'hui, et avec tous les mouvements qu'on a, le milieu associatif qui essaie de... la nourriture bio d'un côté, le réchauffement climatique de l'autre, l'antinucléaire plus loin, enfin, tous ces des tas de mouvements de ce genre-là. Donc la population se saisissait de certaines idées pour essayer de vivre comme au temps des apôtres. Et là-dessus, dans le Midi, on a eu une autre donnée dont j'ai parlé ces dernières fois, plusieurs fois, c'est le mouvement de l'amour courtois. Ou des troubadours, si vous voulez, mais qui était animé par les troubadours. Mais en fait, c'est une vie... un style de vie qui est influencé par tout ce que je viens de dire, et dont la base était la courtoisie. C'est-à-dire, au lieu de régler les rapports sociaux à partir de la force ou basé sur la peur, on se basait sur la tolérance mutuelle, et quand c'était vis-à-vis d'un supérieur, sur le respect, l'obéissance bien sûr, mais un respect, et quand il s'agissait de l'homme vis-à-vis de la femme, c'était basé sur non seulement le respect, mais l'admiration. Oui, c'était plus, on passait du rôle de la femme objet sexuel à la dame que l'on désire. Et donc, cette courtoisie qui est un système social, c'est pas que de la poésie, c'est pas que des chants avec les troubadours, etc. C'est toute une vie en société qui est influencée par cette nouvelle civilisation qui était en train de se mettre en route et qui, évidemment, je dis évidemment, quand on voit l'histoire, ne pouvait pas être accepté par l'Église parce que ça allait trop à l'encontre des courants qu'il y avait de l'époque où la recherche de la force, la recherche du pouvoir, la recherche de la richesse était la base d'un peu tout. Le pape en particulier... à la fin du XIIe siècle, le pape n'avait qu'une idée en tête, c'était d'être le patron de l'ensemble des grands seigneurs de l'Europe. Il voulait dicter au roi d'Angleterre, au roi de France, à l'empereur Frédéric, au roi de Sicile, etc. Il voulait dicter ses volontés, il voulait être absolument le patron de tout. Et il se servait de la religion pour ça. Ça a créé des guerres. Bon, la guerre contre les Albigeois, comme on l'a appelé, ou si vous préférez la guerre contre les Cathares, ça en a été une des guerres qui ont été fomentées par l'Église. Et donc, on n'a pas pu soutenir cet idéal de courtoisie, mais... c'est important pour nous de le connaître parce que ça va être à la base du développement de Corde pendant la première centaine d'années où Corde va fleurir, je dirais, s'épanouir, le siècle d'or, ce 13e siècle qui est le siècle d'or de la ville de Corde. Et c'est important de se rendre compte que d'une part, pour résumer un peu aujourd'hui, d'une part il y avait... un énorme brouhaha social qui demandait à ce que ça change parce que on pouvait pas continuer comme ça, les gens en avaient marre. D'autre part, il y avait une augmentation des richesses grâce à une amélioration du milieu de vie, une amélioration de la nourriture en particulier. Et donc une augmentation de la population, par conséquent il y avait des gens qui étaient beaucoup plus libres de bouger, de se rassembler, des petites villes qui apparaissaient, et donc pour gérer ça, ici dans l'Occitanie, on avait petit à petit émergé une nouvelle civilisation qu'on pourrait appeler basée sur la courtoisie, c'est-à-dire non pas sur la violence, non pas sur la force armée, mais sur le respect et la tolérance. Et ça, on est là à la base même de tout ce qui a fait la vie de Raymond VII et donc de tout ce qui a poussé à l'émergence de la construction de Corde et qui a facilité le développement de Corde, au moins pendant tout le premier la première partie de son existence, c'est-à-dire le XIIIe siècle. Voilà, pour aujourd'hui, je vous remercie. Nous continuerons dans les mois qui viennent à nous approcher un peu plus de cet environnement culturel et social et culturel de Corde et à mieux connaître aussi Raymond VII. Je vous dis à une autre fois. Merci, au revoir.
CFM.
Nord-Midi-Pyrénées.
Nord-Midi-Pyrénées.
l'esprit rock.
Birmingham.